Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce n'est pas une heure d'émission, mais deux heures d'émission aujourd'hui en compagnie de Marie.
Bonjour. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Bonjour.
Et Alexandra.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux, nous sommes en direct aujourd'hui depuis le CDHS qui est situé 37 rue du Villard. Vous pouvez venir nous rejoindre jusqu'à ce soir 17h, peut-être un peu avant. Et nous sommes ici pour une journée axée sur la prévention, sur le dépistage et sur de l'éducation, donc l'arrêt du tabac, vaccination. Et puis aussi détection des maladies respiratoires, mais on va en reparler tout au long de notre émission. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer cette première session, cette première quart d'heure par la présentation du CDHS. Madame Lietta, bonjour.
Bonjour Monsieur Binder, merci pour cette invitation, merci pour l'initiative de cette journée. Donc le CDHS, c'est le Comité départemental d'hygiène sociale, c'est une association sans but lucratif qui a été créée en 1916 et qui est reconnue d'utilité publique, c'est très important de le dire. Elle est donc reconnue par les pouvoirs publics pour les missions qu'elle porte. Elle a pour objectif justement de lutter contre la tuberculose et les maladies respiratoires, dont la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous pourrez éventuellement en reparler après, hors de ma présence. Et elle est reconnue également pour offrir une égalité d'accès aux soins, notamment aux personnes les plus démunies. C'est important de le dire également, que ces personnes aient ou non une couverture sociale. Pour remplir ses objectifs, le CDHS s'appuie sur deux pieds. Il tient sur ses deux pieds et ses pieds sont constitués de 6 centres de santé et de prévention. Donc il y en a un à Villefranche dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il y en a dans d'autres points du territoire du Rhône pour assurer cette mission donc de lutte contre les maladies respiratoires dont la tuberculose. Et c'est assez peu connu, mais c'est une maladie en forte recrudescence et qui mérite donc d'être contenu sur le territoire. Il y a un comité de lutte anti-tuberculeuse dans tous les départements de France. Nous sommes donc celui du Rhône, et nous sommes pour cela financés par les pouvoirs publics, l'Agence régionale de santé et d'autres financeurs publics. Et puis on s'appuie également sur le Centre médical Bayer. J'en dis juste un petit mot, quelques
Bien
secondes,
sûr.
Qui est un centre dans lequel on reçoit des patients en hospitalisation complète ou de jour, pour justement lutter contre ces maladies respiratoires, dont la BPCO. Et nous prenons également en charge des personnes qui sont passées en réanimation, soit post-chirurgie ou soit post-Covid, pour les réhabiliter sur le plan respiratoire. Voilà ce que je peux vous dire.
Revenons sur le CDHS, deux minutes. Un usager, pour venir vous voir, comment il fait? Est-ce qu'il doit prendre rendez-vous ou est-ce qu'il peut venir spontanément?
Ah, il peut venir spontanément, c'est notre premier mode d'accueil des usagers. Depuis la Covid, évidemment, nous avons mis en place des programmations de rendez-vous. Et donc, nous essayons de voir des personnes sur un mode programmé, d'abord pour être plus efficace dans notre façon de les accueillir, mais aussi pour répondre aux contraintes sanitaires, notamment au moment de la crise. Maintenant, nous avons évidemment assoupli à nouveau ces modalités d'accueil. Ce que je n'ai pas dit, parce que je me suis focalisée sur les maladies respiratoires, c'est que, mais vous l'avez dit, Monsieur Binder, nous vaccinons les personnes de manière tout à fait gratuite. Nous pouvons accueillir des personnes qui souhaitent se faire vacciner, pour peu qu'elles aient plus de 6 ans, puisque les enfants ne relèvent pas de notre champ de compétences, sauf pour le BCG, pour lequel nous vaccinons et nous sommes reconnus, cela fait partie de nos missions. Et nous aidons également les personnes dans l'arrêt du tabac, avec des consultations de tabacologie. Et enfin, nous faisons également de l'éducation en santé. Donc nous essayons d'avoir une approche globale pour les populations que nous accueillons.
Important à dire, effectivement, aucun coût pour l'usager, donc c'est gratuit, y compris cette journée d'aujourd'hui, hein, où on peut se rendre pour l'arrêt du tabac, pour la vaccination ou pour une détection des maladies respiratoires. Et en plus, avec une équipe médicale présente, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir deux pneumologues, et puis des infirmiers, une manip radio. Enfin, en tous les cas, tout le staff est là pour cette journée et on vous remercie du reste.
Merci.
Vous disiez tout à l'heure que les gens
Et de là, comme ça, sans avoir pris rendez-vous, en fait, c'est ça ?
Potentiellement, oui, d'accord. Sur leur souhait. Évidemment, quand il s'agit de cas de tuberculose, ils nous sont adressés. Soit on les détecte en centre, parce que lors d'une consultation de pneumologie, nous détectons un cas de tuberculose. Et dans ce cas-là, on le prend en charge et donc on le fait entrer dans le process de soins. Soit parce que cette personne nous est adressée, parce qu'elle a été détectée par ailleurs et qu'elle nous est adressée. Et nous, ensuite, on travaille avec tout le tissu hospitalier sur ces cas de tuberculose. La tuberculose étant une maladie à déclaration obligatoire. Hein. Alors les gens ignoraient un peu ces process jusqu'au moment de la Covid, ça fonctionne de la même façon.
Donc les patients peuvent être adressés par leur médecin traitant ?
Oui, absolument.
Ou c'est uniquement par l'hôpital ?
Absolument, ils peuvent être adressés par leur médecin traitant. On voit aussi des gens dans le cadre de la médecine du travail.
D'accord. Et concernant la vaccination, ça se passe de la même façon que pour les consultations contre la tuberculose, c'est ça ?
Mmh. Bah, les consultations contre les consultations pour la tuberculose, elles sont particulières puisque là, il ne s'agit pas du grand public qui vient vers nous pour être dépisté. En revanche, pour la vaccination, on reçoit tout type de public qui prend rendez-vous pour se faire vacciner ou non. Quand on a des plages qui peuvent accueillir des personnes sans rendez-vous, elles se présentent et on leur fait les vaccins qui peuvent être réalisés ou qui doivent être réalisés. On avait mis en place, à la demande de l'Agence régionale de santé, au moment du pic épidémique, des plages de consultation contre des plages de vaccination contre la Covid, qui sont toujours en cours, notamment au centre de Lyon, mais qu'on est en train de réorganiser compte tenu des nouvelles données du contexte épidémique.
Ce qu'on peut rajouter aussi pour terminer, c'est que exceptionnellement, en tous les cas, c'est une première aujourd'hui pour la partie diagnostic des pathologies, je vais dire obstructives, c'est un vilain mot, mais en tous les cas, tel type la BPCO comme on l'a nommé, c'est que toutes les examens qui sont faits sur place seront transmis aux médecins généralistes directement par notre intermédiaire, donc par la CPTS Beaujolais Dombes. Donc là, c'est une grande première où on a un centre de prévention qui va être en lien direct avec les médecins traitants. C'est une grande première et c'est à noter.
Merci. Nous allons donc poursuivre avec la présentation de la CPTS. Donc nous faisons partie de la CPTS Beaujolais Dombes. Et Ludovic, vous êtes le directeur de cette CPTS.
Oui, donc là je vais prendre l'autre casquette pour le coup.
C'est ça. Expliquez-nous ce qu'est une CPTS.
Alors, on pourra en parler très longuement, donc ça va être très succinct, simplement dire qu'une communauté professionnelle territoriale de santé répond à la santé plan 2022, qui logiquement, donc on devrait avoir 1000 CPTS donc sur tout le territoire français, on n'en y est pas encore. Le département du Rhône se distingue par pratiquement un maillage complet, puisqu'il reste qu'un quartier de Lyon pour l'instant qui n'est pas encore en projet ou en pré-projet. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment corps et qui prend place actuellement sur le Rhône et sur le département de la région Rhône-Alpes.
Et quelles sont les missions de la CPTS ?
Alors, avant de passer aux missions, il faut d'abord dire qu'elle s'adresse aux professionnels de santé. Les professionnels de santé, c'est tout type de professionnels de santé, généralement qui sont conventionnés, mais pas que. Donc on va avoir bien sûr les médecins généralistes, les infirmières libérales, je vous regarde avec un grand sourire, les ergothérapeutes aussi, je regarde Marie, mais on a aussi bien sûr les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les biologistes, enfin bref, tout ce qui est présent sur notre territoire. Et la communauté est avant tout, on est avant tout présent pour nous aider dans notre quotidien et in fine pour aussi améliorer le parcours du patient. Parce que c'est évident que si on offre des choses que n'a pas le professionnel de santé, dans la grande finalité, c'est le patient qui va en bénéficier. Après, on a énormément de missions. Donc, on va avoir des missions très spécifiques à notre territoire. On est sous financement CEPAM après accord de l'Agence régionale de santé. Donc nous sommes reconnus par les tutelles donc on a différentes missions. On va avoir effectivement des missions ce qu'on appelle optionnelles, le parcours de soins, hein. Donc on a l'insuffisance cardiaque sur le territoire, on a l'orthopédie bientôt, on va avoir un parcours de télé-expertise sur la santé mentale, et puis on va avoir des choses obligatoires que toutes les CPTS doivent faire, qui sont aider l'usager à pouvoir trouver un médecin traitant, un médecin traitant référent, hein, bien sûr. Donc là, c'est une grosse difficulté dans notre territoire. C'est un service que l'on rend. Hein. On n'a pas d'objectif à avoir par rapport à malheureusement, parce qu'on voilà, mais on va aider le patient et l'usager à pouvoir trouver plus efficacement un médecin traitant. Et puis on a la possibilité d'avoir des soins non programmés. Donc ces soins non programmés, c'est une régulation qui se fait par le SAMU de Lyon, de Bourg, et par les urgences de l'hôpital Nord-Ouest. Et en fait, c'est pour fluidifier justement les urgences. On va permettre à toutes les urgences dites ressenties, c'est-à-dire que c'est une urgence qui n'est pas une urgence vraie, vitale, hein, et bien de pouvoir se retourner vers un médecin généraliste. Et nous avons donc des médecins généralistes qui sont sous contrat avec nous, qui nous ont laissé des disponibilités, ce qu'on appelle des créneaux disponibles, et que nous, nous allons pouvoir offrir aux usagers. Donc c'est la CPTS qui gère vraiment tout ça, et le parcours existe depuis début 2020, donc juste après la première vague Covid, et actuellement on en est à plus de 1100 ou 1200 usagers qui ont déjà bénéficié de ce parcours. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et on a un taux de satisfaction qui est vraiment très très bon.
Peut-être est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe, comment le patient peut accéder à ces soins non programmés ?
Alors très rapidement, le patient, pour pouvoir bénéficier de ces soins non programmés, ne peut pas nous appeler directement. On a un protocole qui est extrêmement précis. Comme je l'ai dit, il faut que ça passe soit par le 15, je crois que c'est la meilleure chose, et sinon il peut aussi, cet usager rencontre régulièrement une infirmière, un kinésithérapeute ou un pharmacien, par son intermédiaire il peut aussi demander donc le déclenchement d'un parcours, mais il faut que ce soit un professionnel de santé ou une régulation qui puisse intervenir pour, encore une fois, déclencher ce parcours. Nous sommes capables, généralement, de trouver une consultation au plus proche du domicile du patient. Alors, ça ne sera pas forcément aux 100 mètres, mais en tous les cas, on est sectorisé, puisqu'on a un territoire qui est très grand. J'ai oublié de dire, au fait, qu'on était quand même une CPTS, la CPTS la plus grande de la région Rhône-Alpes.
Qui regroupe plus de
112 communes, 1200 professionnels de santé. On est sur une population de 220 000 usagers, donc pratiquement, c'est la moitié de la population lyonnaise intramurose, donc on est quand même, c'est quand même une grosse machine, mais c'est une grosse machine qui fonctionne. Et donc, on est capable de donner un rendez-vous à un patient en à peu près 2 heures en moyenne. Donc, c'est quelque chose voilà, qui rend beaucoup de services.
Finalement, la CPTS, c'est faire du lien entre tous les professionnels de santé, ouais, et permettre aux usagers d'accéder aux soins de santé. Et finalement, cette journée aujourd'hui nous permet vraiment d'illustrer,
c'est ça,
le rôle des deux entités.
C'est ça. Et on a notre mission, c'est vraiment d'être au plus proche du terrain. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans l'écrit, on veut pas que ce soit des projets carton, et tout ce qu'on met en place effectivement est réellement sur terrain et fonctionne.
Est-ce qu'il y a des projets de groupes comme les soins de mon programme? Il y a d'autres choses qui sont prévues?
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dessiner pour 2023. Il va y avoir donc la prévention sur le cancer colorectal qui va arriver, puisqu'on va avoir une émission donc bientôt qu'on va enregistrer donc sur le cancer colorectal. Il va y avoir donc une journée de prévention au cancer colorectal, c'est-à-dire qu'il va au moins sur 6 officines dans tout le territoire, au même moment, on va pouvoir faire de la prévention sur le cancer colorectal avec le centre de prévention de la région Rhône-Alpes qui nous accompagne sur cette action. Et puis il va y avoir aussi des contacts qui vont se faire avec l'hôpital psychiatrique de l'Ain, enfin du département de l'Ain. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place. Il y a aussi un plan blanc, puisque les CPTS doivent aussi avoir un plan blanc. On a un an pour asseoir toutes les actions déjà mises en place et pour mettre en route les prochaines.
Très bien. Merci Ludovic.
Santé Beaujolais d'Ombe.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête.
toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. D'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Aux célébrations.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Stromae en la santé. Santé.
Merci, c'était pratiquement ça.
Ah oui, j'essaye.
Je vous rappelle que nous sommes en direct au CDHS, que vous pouvez venir nous retrouver 37 rue de Villard cet après-midi jusqu'à 17h, que nous sommes ensemble pour de l'arrêt du tabac, de l'éducation, pour de la vaccination et pour du diagnostic sur des maladies respiratoires. On va s'intéresser à l'arrêt du tabac.
Donc, avec nous pour en parler, le docteur Dussopt. Est-ce que vous pouvez vous présenter, docteur, et oui, nous expliquer un petit peu vos missions?
Bonjour, moi je suis pneumologue et tabacologue. Donc, je suis tabacologue au centre, au CDHS de Villefranche, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc, on a cette vacation tous les mardis après-midi. De 13h à 16h30 environ, 17h. Voilà, donc un tabacologue, ça, c'est souvent un médecin, mais ça peut être de plus en plus maintenant une infirmière, un kiné, une sage-femme. C'est ouvert à tous les professionnels de santé. Il y a même des pharmaciens tabacologues. Voilà, donc pour les trouver, ces tabacologues, on peut faire appel à Tabac Info Service. Il y a une ligne Tabac Info Service qu'il ne faut pas hésiter à appeler, parce qu'il répertorie en temps réel les tabacologues autour du lieu de vie des personnes. Voilà.
D'accord. Donc on peut aussi bien aller sur Internet chercher un tabacologue, oui, se rendre au CDHS.
Oui.
Il y a aussi une
antenne, il
me semble, à l'hôpital.
À l'hôpital, il y a
à la
une
CPAM.
CPAM, exact.
Oui. Ouais. Il y a de la dicto aussi au centre Jonathan à Villefranche, mais c'est addicto, toutes addictions.
D'accord. Donc vous, quand vous recevez les patients du coup au CDHS, parce que vous avez cette casquette du coup uniquement ici, si j'ai bien suivi, quelles sont vos missions? Comment se passe une consultation avec
Alors,
les patients?
On accueille les gens qui ont envie de s'arrêter de fumer. La consultation dure à peu près une demi-heure. La première consultation dure une demi-heure à trois quarts d'heure. Les consultations suivantes, on essaye de revoir les patients assez vite quand ils sont bien motivés pour l'arrêt. On prescrit souvent des substituts nicotiniques. C'est souvent des gens dépendants à qui on a affaire. C'est très très souvent des gens qui sont dépendants, qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer par eux-mêmes et puis qui ont eu du mal et qui viennent nous retrouver.
En général, les patients viennent vous voir combien de fois pour...
Pour un sevrage, c'est très variable. Je les revois tout le temps, donc ça va de 2 fois à 10 fois, 15 fois. Il y a des patients qui ont besoin, même s'ils ont arrêté un an, 2 ans avant, ils ont besoin de revenir nous voir tous les 3-4 mois pour... Ça leur fait un petit guide. Oui, ça les rassure.
Et les consultations sont gratuites?
Les consultations sont gratuites, oui. Entièrement gratuites.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conséquences du tabac?
Les conséquences du tabac? Alors, on commence à bien connaître les conséquences pour la santé, bien sûr. Donc, les conséquences cardiovasculaires, les infarctus, l'artérite des membres inférieurs, etc. Ça, c'est vraiment important.
L'AVC.
Les conséquences pulmonaires avec la BPCO. La BPCO, c'est la bronchopathie chronique obstructive. Qui entraîne des insuffisances respiratoires qui peuvent être très sévères et mener à l'oxygène, à la ventilation, etc. Des exacerbations complexes, hospitalisées, etc.
Exacerbation, c'est des crachats, hein, c'est ça?
Oui, c'est quand on crache plus... Alors, les gens qui ont une BPCO crachent beaucoup, enfin souvent au réveil en tout cas, et les exacerbations, c'est quand ils crachent plus et que manifestement c'est surinfecté, et ils sont pas bien, il peut y avoir de la fièvre, etc.
On va y revenir tout à l'heure avec le docteur Tagéro.
Il y a aussi des cancers, non?
Et bien sûr, les cancers. Alors, il n'y a pas que le cancer du poumon dans les conséquences du tabagisme. Ça augmente l'incidence de tous les cancers, le tabagisme, même le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du pancréas, le cancer de la vessie aussi est très lié au tabagisme. Et puis, bien sûr, nous, on s'occupe particulièrement, bien sûr, des cancers du poumon. Avec toutes les conséquences que ça entraîne. Mais les conséquences de la consommation du tabac, c'est pas que ça. C'est aussi, on s'appauvrit quand on fume, parce que c'est un coût énorme. Dans un budget, ça peut être 300, 400 euros par mois. Sur des petits salaires, ça fait tout de suite très très mal. Donc ça crée de la pauvreté. Ça crée en plus de la mauvaise santé. Donc mauvaise santé plus pauvreté, c'est une espèce de cercle vicieux. Ça crée de la mauvaise qualité de vie, pas que pour les personnes qui fument, mais aussi pour l'entourage, pour les enfants, pour voilà. Ça, c'est des conséquences qui n'ont pas vraiment de,
qui sont pas palpables, non
plus. Qui sont difficilement palpables, mais qui sont très très importantes. Et puis ça crée aussi une espèce de privation de liberté. Les gens, ils sont pieds et poings liés à aller acheter leurs cigarettes tous les jours ou leurs cartouches tous les 5 jours. Mais c'est très lourd sur le plan de la liberté. Et ça, c'est une bonne cause d'arrêter de fumer. Une bonne raison d'arrêter de fumer, c'est de se sentir... plus libre du tout, quoi.
Est-ce qu'il y a un bon moment pour s'arrêter?
Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont s'arrêter parce que leur médecin ou leur entourage leur a fait peur. Et ça marche, ça peut marcher. Et puis, il y a des gens, justement, qui, petit à petit, se disent « Mais j'en ai marre d'aller tous les jours au bureau de tabac m'acheter ces cigarettes, ça m'a servi, en fait. » Et là, ça, c'est le bon moment.
La première fois est toujours la bonne?
Non. Non. Non, hélas, non. La première fois, on a... Alors, il y a 30% de gens qui s'arrêtent la première fois, quand même. C'est important. Avec de l'aide, hein.
Ouais, c'est important, finalement.
Sans aide, sans aide du tout, c'est 5%. Et c'est pas anodin, 5% de la population. On a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais quand on dit à quelqu'un, ou quand quelqu'un prend simplement conscience qu'arrêter de fumer, c'est important, eh ben, y en a 5% qui, d'emblée, vont prendre la décision de s'arrêter. Ils ont une espèce de déclic. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, ça, c'est important de le savoir. Alors, on peut s'arrêter tout seul. Il y a des gens qui arrivent à s'arrêter tout seul. Il y a des gens qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, qui ont une faible dépendance, qui arrivent à s'arrêter tout seul. Et puis, plus le nombre des années de tabac grandit, plus c'est difficile parce que, en plus, ça, c'est ancré dans les habitudes de la vie quotidienne, quoi, le tabagisme. Hein. On se lève avec, on mange, on fume une cigarette après, on boit un café, on fume une cigarette après. Enfin, voilà. Donc, il y a souvent besoin d'aide quand même.
Les substituts, ça marche ?
Les substituts, ça marche très très bien, à condition de bien les doser.
Voilà.
Mmh. Voilà. Alors. Donc ça marche très très bien, mais il faut vraiment qu'on s'adapte aux habitudes de la personne. Et il faut savoir que quelqu'un qui fume un paquet par jour, donc 20 cigarettes par jour, en moyenne, eh bien, il y aura besoin de plus d'un patch. La plupart du temps, ça sera 2 patchs. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et c'est important de ne pas avoir peur. Donc on rassure les gens en consultation tabaco. On leur dit, ça n'a aucun danger de mettre 2 patchs. Plus d'autres substituts. On peut les mélanger, les substituts. On peut mettre des patchs et rajouter en plus des gommes, des pastilles. Il y a du spray aussi. Il y a plusieurs sortes de substituts qu'on peut mixer.
Par cette complexité, il est donc important peut-être de se faire accompagner.
Oui, ça c'est important d'être accompagné. Quand on a du mal à s'arrêter tout seul ou avec l'aide du pharmacien, les pharmaciens font très bien aussi. Hein. Voilà. Quand on a un peu de mal ou qu'on a essayé plusieurs fois et qu'on voit que c'est difficile, là ça vaut le coup de prendre conseil vers un tabacologue. Ouais.
Même au niveau de l'utilisation de certains substituts, oui. je pense entre autres au pâte à mâcher, il y a une utilisation qui est très particulière.
Ouais,
là
c'est
aussi,
très particulier. Les pastilles, c'est plus facile, ça se suce comme un bonbon. Alors c'est pas des bonbons, hein. C'est pas bon exprès justement pour pas que les gens s'accoutument, mais c'est plus facile en pastille. Les gommes à mâcher, il y a des gens qui aiment bien les gommes, mais il faut les mâcher à peu près une fois par minute et les garder ensuite dans la bouche contre la joue pour qu'elle diffuse doucement. Parce que si on les mâche d'un coup, c'est assez fort, en fait, la nicotine.
D'un coup.
Oui. Et du coup, ça fait un peu l'effet moutarde, quoi. C'est poivré, là, les gommes à la nicotine. Donc,
c'est pas des chewing-gums et c'est pas des bonbons. Quoi.
Voilà, c'est pas des chewing-gums et c'est pas des bonbons. Il faut les mettre un peu loin des enfants, quand même.
Juste si on peut revenir un peu sur les motivations pour l'arrêt du tabac, il y a aussi le tabagisme passif, parce que ça provoque quand même pas mal de choses aussi dans l'entourage chez les enfants.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, quand on a des enfants, notamment, ont tendance à faire des bronchiolites ou un peu d'asthme de l'enfant, ou il y a des allergies, c'est sûr que s'il y a un parent qui fume à la maison, on lui conseille vivement de s'arrêter de fumer, quoi. Mmh. Ouais.
Et même si le fait de sortir, par exemple, pour fumer, est-ce que ça aide Alors, on dit aux parents d'aller fumer dehors, mais est-ce que c'est suffisant?
C'est mieux, et clairement, c'est mieux de fumer dehors, mais quand même, quand on est fumeur, les habits sont imprégnés de tabac froid, et même avec cette imprégnation, ça crée une pollution intérieure. Et ça, on n'en est pas toujours conscient, mais dans les cheveux aussi, il y a de la pollution intérieure, en fait.
Oui, donc en tout cas, en prenant son enfant contre lui, l'enfant respire du coup.
Ouais. Il y a des particules nocives qui se mettent, et ça, c'est pas la nicotine. Hein. La nicotine en soi n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, enfin, elle est dangereuse à très haute dose, mais ce qui est dangereux dans la cigarette, c'est tout ce qui se consomme, en fait. Ça, c'est important de le savoir. Et les résidus de consomme, donc tout ce qui est tabac froid, etc., c'est dangereux aussi.
Et donc, si c'est la consommation...
Oui.
Ça veut dire que lorsqu'on les personnes qui prennent des cigarettes à rouler, par exemple, où il n'y a pas de filtre, est-ce que ça a une incidence sur le...
Alors, les cigarettes à rouler, ça entraîne... C'est aussi dangereux que les cigarettes manufacturées, classiques. Elles sont souvent beaucoup plus dosées en nicotine, en fait. Quand on les fait soi-même, il y a plus de nicotine, on met plus de tabac, donc il y a plus de nicotine, il y a autant d'adjuvants qui mettent à côté. Hein. L'industrie du tabac, c'est pas des philanthropes. Hein. Ils rajoutent tout un tas de substances qui rendent accro aussi
Dans les chichas aussi, je crois qu'il y a beaucoup
dans
de
les chichas.
Le tabac,
ouais.
le dosage ouais. est important. Oui,
ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Moi, j'avais un dernier oui. petit point. Je ne sais pas si vous avez précisé que les substituts, du coup, maintenant, étaient remboursés.
Alors, non, j'en ai pas parlé. Les substituts sont remboursés depuis maintenant 3 ou 4 ans. Ils sont complètement remboursés par les, au même titre que les médicaments standards.
Sous prescription, donc.
Sur prescription.
D'où l'intérêt de se faire ouais. Aider
sur
aussi en amont.
Sur prescription du médecin, de la sage-femme, de l'infirmière, tous les professionnels, les dentistes aussi ont le droit de le prescrire.
On rappellera donc suffisamment que finalement, quand on fume et quand on a un nourrisson, je reviens un peu sur le cas du nourrisson parce que c'est important.
Oui.
Alors là, on est en hiver, donc on va mettre un vêtement pour sortir. Mais je crois que l'utilité d'avoir un vêtement spécifique fumeur, c'est pas bête.
Bah
y compris en été.
Finalement, oui.
On est bien d'accord.
Oui.
Donc c'est important.
Oui.
Et docteur, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'utilisation des cigarettes électroniques que l'on voit de plus en plus ?
Alors, les cigarettes électroniques, il faut faire très attention où on se fournit en cigarettes électroniques. Bon, il y a des magasins spécialisés en cigarettes électroniques où les vendeurs sont de bons conseils. Il faut vraiment que ce soit de la vapeur froide. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Dès que c'est du tabac à chauffer dans ce qui est considéré comme une cigarette électronique au bureau de tabac, c'est aussi nocif qu'une cigarette normale. Donc, surtout pas de tabac à chauffer, pas de puff. Les puffs sont à la mode. C'est des espèces de petites cigarettes, de fausses cigarettes électroniques, un peu fluo. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu.
Très en vogue chez les ados.
C'est très à la mode dans les lycées, oui. Tout à fait, oui. Ils ont tous des petites puffs à différents goûts. Alors, bien sûr, il y a vanille. Enfin, il y a plein de goûts différents, très attractifs pour les ados. Ça, c'est à proscrire, à bannir. Pour l'instant, ce n'est pas interdit, mais on espère que ça le sera. Voilà, donc la cigarette électronique, ça peut aider à un moment donné. Il faut avoir peut-être en tête quand même de ne pas rester dépendant non plus à la cigarette électronique, mais ça peut être un outil, pourquoi pas.
Et puis on peut passer d'un produit avec de la nicotine à un produit sans nicotine pour faire la transition,
c'est ça,
par exemple.
C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors là, je ne suis pas de très bons conseils parce que ce n'est pas un dispositif médical. Mais effectivement, on peut réduire petit à petit le dosage en nicotine.
De façon pratique, comment ça se passe sur place quand on vient faire de la prévention
quand on vient en consultation,
arrêt du tabac, oui.
Donc la première consulte dure à peu près une demi-heure, comme je disais tout à l'heure. On essaye de s'adapter au mieux à la dépendance de la personne, à ses goûts. On essaye de voir un petit peu comment aussi il va pouvoir gérer à la maison le stress que peut engendrer l'arrêt du tabac. Alors, sachant que quand on dose correctement les substituts, le stress est moins important. Hein, le stress, il est lié aussi au manque. Donc ça, c'est important. Donc on leur réexplique tout ça à chaque fois. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc la plupart du temps, on met en route des substituts nicotiniques et on essaie de revoir les gens assez vite, soit la semaine d'après, soit 15 jours après. Dans la mesure du possible, pour l'instant, ça tient, ça va.
Il y a un questionnaire médical avant ou
Alors, on a un questionnaire qui est standardisé dans tous les centres de tabaco de France. C'est un questionnaire qui est un petit peu long à remplir. Donc, quand les patients prennent rendez-vous, notre secrétaire leur envoie à leur domicile ce questionnaire. Comme ça, ils prennent le temps de le remplir chez eux tranquillement. Et puis, on le regarde ensemble. Donc, sur ce questionnaire, on leur demande leurs antécédents, etc., tout ce qui les pousse à s'arrêter, leur motivation.
Ça vous permet de faire une consultation qui soit bien adaptée à chaque personne.
Ouais, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment important de s'adapter aux personnes.
Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez jusqu'à 17h ce soir donc, venir nous voir au centre du CDHS à 37 rue de Villars et on se fera un plaisir de vous recevoir et de vous accompagner. Merci docteur.
Merci à vous.
Je suis amoureux d'une cigarette, toute la sainte journée, elle colloque. Elle aussi, si te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh. Je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Je m'enroule une aussi sec à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh, oh. Je l'aime bien épaisse, roulée comme une papesse, dans son fourreau zigzag à bord gommé. Quand du bout de la langue, je la lèche le tang, fumant elle frémit sous la morsure de mon dentier. Hey, hey, hey. Hey. Mmh. Hey, hey. Je suis amoureux d'une cigarette. Elle a la rondeur d'un sein, qu'on mord ou qu'on tête. Et Jenny, y aura une taf pour toi si tu penses à mon paquet de gris. Oh. Mange-toi car j'ai bientôt fini de tirer sur ce satané vieux mégot. Oh, 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 oh. Mmh. Oh, oh, oh. Mmh. Hey, hey, je suis amoureux d'une cigarette. Je suis amoureux d'une cigarette. Et je suis amoureux d'une cigarette. Amoureux d'une cigarette. Oh, hey, hey.
Santé, Beaujolais d'Ombes.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Cigarette de Jacques Higelin.
Nous sommes en direct pour cet après-midi jusqu'à 17h au CDHS, 37 rue de Villars. Vous pouvez venir nous retrouver pour une consultation sur l'arrêt du tabac, sur un diagnostic sur une maladie respiratoire, y compris la tuberculose, et sur de la vaccination. Notre chronique, vaccination.
C'est donc Yasmina Ben Ali, vous, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez donc au CDHS.
Oui.
Et vous allez pouvoir répondre à nos questions sur la vaccination, notamment les vaccinations qui sont obligatoires pour les enfants.
Tout à fait, en effet. Du coup, le CDHS vaccine les personnes à partir de 6 ans. En ce qui concerne de la vaccination obligatoire, ça concerne les enfants de moins de 6 ans. Donc depuis 2018, il y a une liste de 11 maladies pour la vaccination. Donc on a la méningocoque, rubéole, oréon, rougeole, pneumocoque, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hémophilus et hépatite B. Donc c'est un calendrier vaccinal qui se fait dès la toute petite enfance, les premiers mois jusqu'à 6 ans, qui est obligatoire.
Donc vous chargez des rappels surtout alors ?
Exactement, nous le CDHS est plutôt dans le rappel avec les recommandations via le calendrier vaccinal.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi il est important de se faire vacciner ?
L'intérêt, elle est tout d'abord individuel pour se protéger contre les maladies infantiles. Souvent, on a l'impression qu'elles sont bénignes, mais des fois, il y a des situations où ça peut être très grave, voire mortel. Hein. On peut prendre un exemple tout simple comme la rougeole, où il peut y avoir des complications pulmonaires, voire même encéphalites, c'est-à-dire des séquelles neurologiques pour l'enfant. Donc, c'est des maladies qui permettent de endiguer, enrayer cette maladie via la vaccination. Et ensuite, ça serait la stratégie est collective. Donc, à partir du moment où on se vaccine, nous, individuellement, aussi, on protège autrui du transfert et de la maladie.
Et des personnes qui sont parfois fragiles, comme par les personnes âgées.
Exactement, et tout à fait.
Très bien. Quelles questions les usagers peuvent vous renvoyer lors de la vaccination ? J'imagine qu'il est un peu comme pour toutes les vaccinations, les patients se posent des questions, se demandent qu'est-ce qu'ils vous demandent en général ?
Alors la plupart du temps, les usagers vont demander qu'est-ce qui va être obligatoire, qu'est-ce qui est nécessaire pour se protéger et aussi ce qui va pouvoir rendre service à leur famille, à l'entourage pour éviter d'avoir cette problématique-là. Et souvent, la deuxième question, c'est en lien avec l'injection, les suites de l'injection, s'il y a des effets indésirables. Mm-hmm. Donc souvent, on leur explique, on les rassure en leur expliquant que souvent, il va y avoir ça va être localisé au niveau du site d'injection, où il y aura une induration, une douleur. Et parfois, il peut y avoir un petit pic de température, ce qui est normal, c'est la réaction immunitaire, et qu'une prise de paracétamol sera suffisante et pourra corriger cet effet.
Et que les bénéfices du vaccin sont nettement supérieurs au risque qui est de l'injection, en fait.
Oui, tout à fait. C'est ça. En effet, il n'y a pas le risque pour la santé. Y a une balance bénéfice-risque qui fait que l'injection et la vaccination n'est pas à risque normalement pour la santé par rapport au fait si on contracte la maladie qui peut être très compliquée dans certains cas de figure.
Et les personnes qui viennent vous voir donc pour la vaccination, qu'est-ce qu'ils doivent, j'imagine qu'ils doivent apporter un carnet de vaccination ou un carnet de santé s'ils en ont, s'ils en ont pas, comment ça se passe ?
Alors on va dire on a différents type d'usager, on a l'usager qui va venir en fait de l'étranger, donc du coup qui aura des fois son carnet de vaccination mais en langue étrangère et qui pourra un peu expliquer ce qu'il a eu. Donc ça c'est des cas de figure où c'est un peu plus compliqué, où il va y avoir un questionnaire avec le médecin pour faire le point et faire les rappels nécessaires et rattraper en fait ce qui n'a pas été fait, parce que chaque pays a sa on va dire stratégie vaccinale. Hein. Tous les pays n'ont pas la même façon de penser ou les mêmes problématiques en termes de maladies.
Oui, il n'y a pas forcément les mêmes maladies.
Les mêmes maladies, exactement. Donc du coup, on va dire que on a un but de rattraper en leur proposant. Et sinon, le deuxième cas de figure, c'est la personne qui a son carnet de santé, où on a un onglet vaccination, où on a tout ce qui est répertorié. Et sinon, des fois, dans le cas de figure, ça peut arriver qu'ils le perdent. Voilà. On leur propose, nous, un carnet de vaccination où on réécrit tout ça. Et nous, on a un logiciel patient. On retranscrit toutes les vaccinations qu'on a faites et les vaccinations à venir. Donc, ça veut dire que s'ils vont dans d'autres centres de la région, nous, on pourra relire et savoir ce qu'il en est s'ils n'apportent pas les documents.
D'accord.
Et après, ensuite, il y a aussi un projet assez intéressant. Ça serait la vaccination électronique. Alors c'est un projet qui est en discussion, voilà, c'est pas encore là, ça se discute, c'est pas encore posé, mais c'est l'idée plus tard de la numérisation du dossier patient, donc d'avoir toute façon numérique pour faciliter et éviter les pertes d'informations sur la vaccination.
Oui, finalement d'avoir un carnet de santé électronique,
tout à fait.
Où on aurait tout de répertorié et je vois typiquement, je prends mon exemple,
oui.
C'est vrai qu'en tant qu'enfant, avec les enfants, on va facilement chez le médecin. médecin avec le carnet de santé, mais en tant qu'adulte,
oui, on a tendance
un petit peu plus dans le placard.
Oui, on oublie, on dit oh mince, je l'ai oublié, oh, bah, on le fera la prochaine fois, puis.
Puis on oublie.
On oublie, on oublie, et alors que, bah, avec le carnet de vaccination électronique, bah, c'est déjà répertorié, c'est plus facile aussi pour le praticien de voir ce qui a été lu. Ça facilite un peu l'outil quoi, pour tout le monde. Quoi.
Et les patients doivent venir avec leur vaccin comme quand on va chez le médecin ou...
Non, pas. Alors, la plupart des vaccins, c'est nous qui les fournissons. Quelques exceptions où ils vont devoir l'apporter après avoir eu une prescription. Ils vont en pharmacie, ils reviennent se faire vacciner. Mais la plupart des vaccins, là, notamment ceux qui sont obligatoires, nous, on les fournit. Hein. Oui.
Comment ça se passe de façon pratique sur place? On est accueilli par la secrétaire?
Oui, alors il y a un rendez-vous qui est pris en amont.
Donc il faut un rendez-vous?
Oui, un rendez-vous. Alors il y a deux types de rendez-vous. Il y a le cas particulier de la vaccination BCG qui est en lien avec la tuberculose, nos missions de la tuberculose qui peut se faire via Doctolib. Donc plus facile, donc ils s'inscrivent via Doctolib et prennent rendez-vous. Et sinon pour tout ce qui est vaccination... où on continue à plus de 6 ans, eh bien, ils prennent rendez-vous via la secrétaire.
Par téléphone.
Par téléphone. Le temps de vaccination, il se fait à Villefranche le mercredi, le matin. Donc de 8h30 à 10h30, c'est la vaccination publique. Et ensuite, c'est de 10h30 à 12h où c'est le BCG. Et le temps de consultation est très simple. En fait, il y a un échange qui est fait avec le médecin, où il y a des questions qui sont posées, où il s'aide aussi parfois du carnet de vaccination et du carnet de santé, savoir ce qu'il y a eu comme vaccination précédemment. Et il complète en fait ce qui manque avec l'accord du patient, le consentement du patient. Et il lui explique un petit peu les suites à venir et les rappels à venir pour les prochaines fois. Au grand papier, ils disent voilà, la prochaine vaccination est pour telle année, tel mois.
Peut-être qu'on peut rappeler le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous.
Oui, le 04 74 65 02 70. Je répète, 04 74 65 02 70. Ça prend du temps de se faire vacciner ou c'est assez vite fait?
Non, c'est très rapide, le geste est très rapide. Je crois que le plus long, c'est... d'échanger avec le médecin, savoir un peu ce qui a été, qu'est-ce qu'il y a eu comme vaccination auparavant, surtout quand l'usager est étrangère et qu'il y a une barrière de la langue où c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, on veut un peu être sûr sur ce qu'il a eu ou pas. Donc du coup...
15 minutes, ça suffit?
Oui. Oui. Pour le centre de Villefranche, en moyenne, il y a 30 consultations par semaine.
D'accord.
Et si les patients ne peuvent pas venir au CDHS, je sais qu'ils peuvent venir voir les infirmières libérales maintenant.
Oui,
il y a eu un petit changement au niveau de la vaccination, je crois.
Et oui, on a fait tout ce qui est rappel maintenant. Donc c'est à partir de 6 ans. Tous les rappels vaccinales, les infirmiers libéraux sont habilités à pouvoir faire des rappels. Et donc,
alors c'est à partir de 16 ans, je crois.
16 ans,
oui,
d'accord.
16 ans. Les 16 ans ou les adultes.
D'accord. Donc oui, ça vient de tomber, c'est très récent.
Quelques semaines.
Donc du coup, là, c'est en train de se mettre en place par les infirmières libéraux et du coup, elles vont pouvoir vacciner les usagers pour
c'est
le
ça.
Rappel vaccinal, tout à fait.
Elles n'auront plus besoin d'avoir une ordonnance où il est noté dessus que c'est à faire par l'infirmière, mais juste aller chercher son vaccin à la pharmacie et aller directement voir une infirmière.
Tout à fait, et du coup, ça va faciliter l'accès pour l'usager aux soins, quoi. Donc du coup, avoir des délais moins longs, et donc nous... C'est moins décourageant et c'est plus facile pour eux. Quoi.
C'est ça, c'est souvent le se dire qu'on va aller se faire piquer, on n'a pas très envie.
Déjà, et en plus, s'il faut attendre, c'est encore plus compliqué.
C'est ça.
Rappelons que le rendez-vous pour la vaccination est facultatif, d'après ce qu'avait expliqué Mme Lietta tout à l'heure, sachant que vous avez pris ces programmations de rendez-vous face à la Covid, mais qu'il reste quand même une possibilité de pouvoir venir se faire vacciner sans rendez-vous.
Oui, c'est possible.
C'est possible.
Y a pas de... Oui, bien sûr.
L'autre chose aussi peut-être à dire, bien que ça paraît évident, mais c'est qu'on parle donc de vaccination obligatoire et on n'est pas du tout dans la vaccination Covid.
Oui.
Donc on ne fera pas de vaccination Covid au CDHS.
Il y a eu pendant la période d'endémie de la vaccination Covid.
D'accord.
Pour justement déployer cette problématique nationale. Donc plusieurs actions, tous ceux qui pouvaient être acteurs pour enrayer cette pandémie était missionné pour ça.
Oui.
Et du coup, vu que la vaccination s'est faite de façon massive, ça se réduit. Et du coup, c'est les rappels, les prochains rappels qui visent les personnes âgées souvent.
D'accord, donc vous pouvez faire les rappels de Covid. D'accord,
oui, on peut faire les rappels de Covid. Ça se fait au centre de Lyon.
Oui, c'est pas sur
c'est spécifique, pas à Villefranche.
C'est
spécifique au centre de Lyon. Okay.
Merci.
Merci à vous.
Beaujolais d'Ombes. Vous êtes sur Radio Calotte 100.9. Vous venez d'écouter
Close to Me de The Cure.
Un petit peu en retard. Hein,
ah non, mais ça suffit.
Et nous sommes en direct au CDHS, 37 rue de Villars, où vous pouvez venir nous retrouver pour faire de la prévention, l'arrêt du tabac, de la vaccination et ce qui va nous intéresser maintenant, du dépistage, du diagnostic des maladies respiratoires. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Nous vous recevons donc pour cette chronique sur les maladies respiratoires. Alors, c'est quoi une maladie respiratoire ?
Très bonne question et je voudrais vous dire, c'est très très large. Une maladie respiratoire, on peut commencer à dire, c'est une maladie qui va toucher les poumons, mais pas que. Parce que beaucoup de maladies respiratoires sont des maladies qui sont considérées des maladies systémiques, notamment certaines maladies chroniques, comme celles qu'on va dépister ou qu'on dépiste déjà ici au CDHS, qui est la BPCO. Donc, je voudrais dire, si on parle un peu plus de la BPCO, il y a des symptômes qui peuvent faire alerter les patients avant d'arriver à un dépistage, comme on a une BPCO. Ça peut être une petite sensation de dyspnée. La dyspnée, c'est un petit peu d'essoufflement.
Voilà, c'est de l'essoufflement.
Oui, avoir de la toux. Des fois, les gens, ils considèrent que tousser tous les matins, c'est normal. On s'habitue.
C'est allergique.
On prête plus attention.
C'est le grand.
On réinterprète. Il y a d'autres choses. Ça peut être avoir des sécrétions bronchiques, ce qu'ils appellent les patients les crachats. Je crache. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? De temps en temps, avoir des sifflements des poumons. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est dans la nuit? Est-ce que c'est quand je fais un effort? Donc voilà. Alors, quand on a ces symptômes, ça ne veut pas dire que c'est toujours une maladie pulmonaire. Ça peut venir du cœur, ça peut venir d'autres organes. Et en théorie, si on veut être un peu plus large, on peut dire que les maladies chroniques, normalement la BPCO, c'est la maladie qu'on est en train de dépister aujourd'hui pour la plupart des patients, et qui s'appelle maladie obstructive chronique, et qui est une maladie qui est liée, pour la plupart des cas, au tabac, mais pas que.
80%, je crois. Hein.
Oui, à peu près 80% est lié à l'exposition à la fumée de tabac. On peut fumer, ça peut être des patients, des personnes qui fument ou des gens qui sont exposés au tabagisme passif. Mais il y a des patients BPCO, ça peut être aussi la pollution de l'air intérieur. Ça, on n'en pense pas tout le temps. Ça peut être aussi l'exposition à des poussières, à des fumées, des produits chimiques dans le cadre professionnel, ou bien une combinaison des trois. Il y a aussi, aujourd'hui, on parle de plus en plus de comment est notre poumon pendant l'enfance, comment il a été développé. On ne part pas tous du même niveau, si on a eu des problèmes d'allergie. Et aussi, de plus en plus, on voit pour les personnes ou les patients prématurés, qui a eu un poumon qui ne s'est pas développé dans des bonnes conditions parce qu'ils sont nés en avance.
Et donc, quand vous parliez tout à l'heure des patients qui avaient cette sensation d'essoufflement ou des crachats, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ces cas-là?
Alors, dans ce cas-là, moi je parlerai du petit premier pas. C'est consulter, parler. Après, si le patient fume, il me semble que ça serait important, mais ça, les patients le savent souvent, de parler à son médecin traitant pour qu'il soit dépisté, pour qu'il soit envoyé voir un spécialiste, si ça dépend du degré d'essoufflement ou d'autres symptômes que le patient peut avoir. Mais les médecins généralistes, aujourd'hui, ils sont très bien formés à ce type de problématique, ils connaissent bien la maladie. Je pense que le plus important, c'est d'en parler, et d'en parler à son médecin traitant.
Et une fois qu'on a fait ce petit pas et qu'on a été voir son médecin, il va y avoir seulement une consultation ou est-ce qu'il va y avoir d'autres examens? Qu'est-ce qui va permettre de savoir si on a cette BPCO ou si on a une autre pathologie respiratoire d'ailleurs?
Alors déjà, le médecin traitant va faire une anamnèse, va demander au patient quels sont les symptômes qu'il a. Et
donc
aussi,
ses antécédents, vous parlez d'antécédents.
Ses antécédents. Et dépendant des antécédents, il peut demander dans certains cas de faire des examens, comme des radios, scanners, ça dépend. Et aussi mesurer le souffle, ce qu'on appelle une spirométrie, qui est fait par les pneumologues, par tous les pneumologues. Il y a des fois où c'est fait aussi par certains médecins généralistes, c'est fait aussi ici au CDHS.
Le dépistage précoce est quand même important.
Oui, le dépistage précoce est très très important.
Et pourquoi ?
Pour une raison très claire, c'est que la maladie chronique, la BPCO, est une maladie invisible, les premiers stades de la maladie. C'est-à-dire que le patient tombe, et je dis tombe parce que des fois il tombe des nues, tombe dans la maladie à des stades, au stade 4, 3, 4, à des stades vraiment très avancés. Et souvent il dit, mais je ne me suis pas rendu compte. Et pourquoi personne m'a parlé que je pouvais avoir ça? Alors souvent, c'est comme je dis, c'est des petits symptômes. Je suis un peu essoufflée. Mais comme je suis essoufflée, je m'habitue. Bah, c'est normal, je fume. Ou c'est normal, je fais plus de sport. Et plus je suis essoufflée, moins j'en fais. Et moins j'en fais, plus je suis essoufflée chaque fois qu'on fait. Et on rentre dans un cercle vicieux où le patient ne se rend pas compte parce qu'il est en train de compenser, de s'habituer. Tous les jours, jusqu'à 15 jours, il fait une maladie virale, il fait une petite grippe, le Covid. Et il arrive à l'hôpital, aux urgences, et on fait une radio, ou on lui dit, bah, allez voir un pneumologue, on ne sait jamais, ou on lui fait une spirométrie. Et là, on voit que ses capacités pulmonaires sont très diminuées.
Et donc finalement, c'est un choc pour le patient.
Oui, dans un pourcentage très important, c'est un choc. Il ne s'attendait pas, plus ou moins. Souvent, les gens, ils sont un peu dans le déni. Ils savent qu'il se passe quelque chose. Mais il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir. Il y a la honte. Il y a des fois le déni. Je ne veux pas savoir. Je sais que je devrais faire, mais je ne fais pas. C'est pour ça que je dis que peut-être aujourd'hui, dans la prévention, le plus important, c'est ce premier petit pas. Parlez. Allez voir votre médecin traitant. Un petit conseil peut changer tout.
Je voudrais revenir sur la réversibilité des symptômes. Parce qu'en fait, c'est ça, vous en parliez tout à l'heure, hein, c'est une maladie insidieuse. Parce qu'en fait, effectivement, il y a un état qui se dégrade, donc le patient se dégrade, et puis, qu'il fasse quelque chose ou qu'il fasse rien, les premiers signes, les premières crises, en fait, vont spontanément se résoudre. Mm-hmm. Et se croit guéri.
Tout à fait. Mais parce que les symptômes, souvent, ils ne sont pas en corrélation avec la gravité de la maladie. C'est pour ça que c'est une maladie qui est presque invisible. Et un patient peut avoir des symptômes. Aujourd'hui, on a des traitements médicamenteux. On a aussi d'autres traitements qui sont tout autour de la maladie respiratoire chronique, comme la réhabilitation. Il y a aussi l'hygiène de vie. Ça ne suffit pas, parce que c'est des patients. C'est une maladie qui est invisible, et souvent, quand elle avance, elle est multisystémique. Elle va toucher d'autres organes. Cardiovasculaire. Elle va provoquer des dénutritions. Elle va provoquer de l'ostéoporose. Du point de vue psychologique, c'est souvent des patients qui ont une dépression qui est associée, des fois anxieux. Et donc, on va pouvoir agir sur toutes ces pathologies qui sont autour, et toutes ces pathologies vont diminuer les symptômes, même les faire disparaître. Même si la maladie, elle est chronique, elle est figée, quand on va faire souffler, ça ne va pas évoluer beaucoup, ça sera toujours la même. Mais l'interprétation, la façon de vivre sa maladie du patient va être complètement différente.
L'activité physique est importante ?
L'activité physique est importante dans la maladie, comme quand on n'est pas malade, quand on est sain.
Complètement.
Bien sûr, mais surtout pour éviter la progression de la maladie. Faire l'activité physique, c'est aussi rentrer dans un chemin de bien-être, d'avoir une vie beaucoup plus saine. Je dirais que c'est un tout, pas seulement bénéfique spécifique d'avoir fait pendant, par exemple, un mois une réhabilitation respiratoire. C'est aussi quelque chose qui doit s'inscrire dans le futur de la vie du patient.
Qu'est-ce que c'est que la réhabilitation respiratoire ?
Alors, la réhabilitation respiratoire, c'est un ensemble de techniques ou de soins qu'on va apporter à un patient, pas seulement du point de vue médicamenteux. Le patient va faire des activités physiques, il va participer à des ateliers pour mieux connaître sa maladie. Le patient va devenir acteur de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il va pouvoir prendre des décisions, les bonnes décisions, tout en étant accompagné par nombreux professionnels de santé, des pneumologues, psychologues, infirmières, kinésithérapeutes, nutritionnistes, ergothérapeutes, etc.
On a parlé beaucoup de la BPCO, mais il y a d'autres maladies respiratoires, j'imagine, que
tout à fait. On a d'autres maladies, si je peux citer les plus importantes que tout le monde connaît, c'est l'asthme. L'asthme, ça n'affecte pas seulement que les jeunes, des asthmes allergiques. Des fois, un asthme peut devenir un asthme chronique, se développer à l'âge adulte, après 50 ans. Les patients qui sont asthmatiques et qui fument ont beaucoup plus de probabilité de développer une BPCO, parce que le poumon est beaucoup plus sensible. J'ai oublié de dire, il y Il y a aussi une connotation génétique. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à la fumée du tabac. On n'est pas tous pareils devant le tabac. Donc, il y a tout un ensemble de pathologies. Donc, après l'asthme, il y en a aussi. On a aussi d'autres pathologies. Comme la tuberculose, qui peuvent laisser des séquelles. Autres maladies infectieuses. Il y a les chirurgies du thorax. Il y a le cancer. Il y a d'autres pathologies qu'on appelle les fibroses. Oui, il y a beaucoup de pathologies. Certaines, on peut les éviter, et d'autres, non.
Il y en a une, entre autres, qui intervient, enfin, qui est pratiquement les suites de la BPCO non soignée, c'est l'emphysème.
Oui, alors aujourd'hui, on parle pratiquement plus d'emphysème, parce qu'on considère que l'emphysème est une partie de la BPCO qui est un peu différent. L'emphysème, c'est plus un diagnostic anatomopathologique, alors que la BPCO, elle va englober tout. D'accord. L'emphysème aujourd'hui, c'est de la BPCO.
D'accord. Okay.
On fait plus cette distinction aujourd'hui. Alors, quand les patients ont dit BPCO, ils n'ont pas l'habitude. On dit l'emphysème, vous avez entendu. Donc, ça parle un peu plus aux patients, l'emphysème.
Donc, vous exercez dans un centre de rééducation.
Oui.
Hein, qui est le centre Bayer.
Oui.
Donc, vous avez des prises en charge. Donc de ce type-là, hein, BPCO, asthme, donc broncho, toutes les maladies broncho-obstructives, on va dire. Quelle est la part de votre accompagnement, vous, en tant que pneumologue? Vous allez vous aider les patients dans leur traitement, c'est bien évident. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Le retour à domicile, comment ça se passe?
Alors, on accompagne les patients.
Ouais.
La prise en charge est globale, avec tout l'ensemble de l'équipe qui va s'occuper des patients. Concernant le traitement, la plupart des patients, ils viennent déjà avec leur traitement. Donc, c'est des patients qui ont une pathologie qui est assez évoluée. Parfois, ils sont sous oxygène. Ils ont déjà leur traitement et leur pneumologue. Et la plupart des cas, c'est nos confrères, les pneumologues de ville ou de l'hôpital qui nous les envoient. Et le patient va faire un stage qui est habituellement de 4 semaines minimum pour pouvoir avoir un résultat. Il va être accompagné, il va faire du réentraînement à l'effort. Il va avoir toute une batterie déjà d'examens à son arrivée. Et après, un accompagnement qui est parfaitement individualisé et adapté à chaque patient. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif est que le patient ait appris qu'est-ce que c'est sa maladie. Et comment faire dans un futur pour continuer à se prendre en charge et à suivre toutes les recommandations qu'on lui a été données, notamment bien prendre les médicaments tous les jours, continuer à faire de l'activité physique, savoir repérer quels sont les premiers symptômes quand un patient va avoir une exacerbation, c'est-à-dire je suis un peu plus essoufflée parce que j'étais en contact avec un virus, mais avant que ça dégénère, commencer déjà à prendre son traitement sans besoin d'aller aux urgences, sans besoin d'aller voir son médecin traitant. Donc c'est tous ces ensembles qui vont faire que le patient est acteur de sa maladie.
Il apprend à vivre avec, en fait.
Tout à fait. Et à l'accepter.
Moi, je voulais revenir sur le CDHS et vos missions ici. Donc, au niveau du dépistage, on en a parlé tout à l'heure. Donc, quels sont les examens que les patients peuvent faire? Donc, on a parlé de la spirométrie. Est-ce qu'il y a d'autres choses en relation avec les maladies respiratoires?
Oui. Donc, une consultation en pneumologie, le patient va être ausculté. Il va avoir une spirométrie. On peut faire aussi des radios pulmonaires pour un premier dépistage, si le médecin considère que cela est nécessaire. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il va être aiguillé, envoyé voir d'autres pneumologues ou d'autres médecins pour pouvoir suivre sa maladie et pouvoir être suivi du point de vue médical.
Mais voilà, c'est ça. Il y a le dépistage ici. Et après, vous, votre rôle, c'est aussi d'orienter le patient vers les médecins de ville, l'hôpital éventuellement, pour le suivi.
Parfaitement. Par exemple, ce matin, il y a un patient qui est venu, on a fait une radio, et je lui ai demandé d'aller voir son médecin pour faire un scanner, si on ne peut pas faire de scanner.
Oui.
Ou d'autres patients que j'ai envoyés pour faire... On fait des spirométries simples. Ça donne un dépistage, ça donne beaucoup d'informations, mais des fois, cette information, il faut la compléter avec un examen un peu plus poussé, ce qu'on appelle une plethysmographie. Il y a eu, par exemple, une patiente que j'ai envoyée, je lui ai dit directement d'aller voir un pneumologue pour faire ce type d'examen.
C'est une orientation, en fait.
Oui.
Combien de temps prend cette orientation cet après-midi, là, si on vient vous voir? Il faut combien de temps, à peu près, sur son agenda?
En 15 minutes, on peut déjà avoir... une mesure du souffle et un petit conseil. Donc c'est pour ça que je dirais, venez faire le premier petit pas, on vous attend.
Bien, sur ce, venez nombreux, on vous attend jusqu'à 17h. Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Respire encore de Clara Luciani.
Merci. Nous allons conclure cette émission, ce moment d'échange. Madame Lietta nous a rejoint pour l'occasion, directrice donc du CDHS.
Vous vouliez apporter quelques précisions au sujet des consultations ? Des prises de rendez-vous, en tout cas.
Absolument, parce que je pense que nous avons manqué de clarté dans la façon dont nous avons expliqué les choses. Simplement pour vous dire à vous tous auditeurs, vous pouvez bien sûr venir au CDHS sans rendez-vous pour une vaccination, une consultation pour les voies respiratoires ou la tabacologie, mais nous n'avons pas tous les jours de 8h à 18h des médecins disponibles et des soignants disponibles. Nous avons des plages de consultation. Pour connaître les horaires des plages qui sont ouvertes avec ou sans rendez-vous pour ces différents sujets, vous pouvez téléphoner, regarder sur notre site internet ou encore passer directement. Voilà, merci beaucoup, nous vous attendons nombreux.
On rappelle juste le numéro de téléphone peut-être et l'adresse.
Complètement, alors le 04 74 65 02 70 pour Villefranche, je répète le numéro 04 74 65 02 70. Vous pouvez aussi les rejoindre sur www.cdhs.fr. Cette émission sera bien sûr en podcast. Vous pourrez nous réécouter sur www.radiocalade.fr, sur les réseaux sociaux Facebook, donc Radio Calade, de la CPTS Beaujolais-Dombes. On vous donne également plein d'informations du territoire au niveau de la santé et pour le territoire, donc vraiment spécifiques à notre territoire. Y a-t-il quelque chose à rajouter ?
Peut-être juste l'adresse du CDHS ? 37 rue des Villards.
C'est ça, tout à fait, à Villefranche. Nous vous attendons jusqu'à 17h aujourd'hui. Nous, Marie et Alexandra, on va se revoir très bientôt. Je crois que c'est le cancer colorectal, la prochaine émission.
C'est ça, tout à fait.
Une émission qui va être diffusée le mois prochain. En attendant, on se dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Et on remercie Mathieu qui était aux manettes aujourd'hui. Au revoir.
Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais-Dombes.